au moment où le collège se passe, se prépare et se passe. Léris est très incertain sur ce qui sera l'avenir de son œuvre. Et il est un peu coincé entre deux possibilités, à mon avis. Il est coincé entre une carrière, disons, scientifique, hein, car il est en train de devenir ethnologue, il passe ses examens, il est encore étudiant. Et d'autre part, plus il s'engage dans une carrière scientifique, plus il est dégoûté par la science, et il rêve de redevenir un poète, de revenir le poète qu'il n'a jamais été d'ailleurs. Et alors, d'une certaine manière, il manifeste sa distance à l'égard du collège de sociologie en tant que savant, en disant « tout ça, c'est pas très sérieux ». De vrais sociologues ne diraient pas ce que vous dites, ce sont des généralisations un petit peu aberrantes, vous n'avez pas d'expérience de terrain, etc. Donc le discours officiel de Léris, la distance qu'il manifeste vis-à-vis du collège, il le fait au nom de la science, mais je pense que très secrètement c'est plutôt l'inverse. Il trouve ça trop sérieux, il trouve ça trop philosophique, trop collégial, et il a envie au contraire de revenir vers quelque chose de plus littéraire, de plus poétique, disons.
Je crois que ce qui le repoussait un petit peu aussi, c'était le côté activisme sociologique de Bataille, dont les visées, disons, étaient implicites dans les documents de fondation du Collège de sociologie, mais qui n'ont jamais été explicités comme tels, sauf dans cette fameuse société secrète que Bataille avait fondée parallèlement au Collège et qui s'appelait Acéphale, comme la revue. Ça, il était assez réfractaire à ça.
Alors, je crois que Léris est effectivement quelqu'un qui... Il y a deux points dans votre question auxquels je voudrais répondre. Le premier, c'est l'attitude de Léris vis-à-vis des groupes et des sociétés secrètes ou autres. Et dans le fond, Léris n'a jamais été vraiment capable, il a toujours été extrêmement réticent à l'égard de ce petit jeu de la société secrète. Dans la mesure où, disons, les valeurs de secret, qui sont très importantes chez Léris, impliquent qu'elles ne soient jamais divulguées. Une société secrète est une société qui ne peut pas se... qui a un code secret, et ce code secret doit être secret même, en quelque sorte, à ses membres. Et donc, c'était une société secrète dont on parlait beaucoup, enfin, il y a eu toutes sortes d'anecdotes. Enfin, tout le monde connaissait, comme aujourd'hui, tout le monde connaît cette société secrète Acéphale. On en parle beaucoup, on se dit qu'est-ce qui s'y passe. Et pour Léris, dans le fond, c'était un secret dont on parlait beaucoup trop pour qu'il ait quoi que ce soit de désirable, d'intéressant et donc de secret. Le second point, l'activisme, c'est on a souvent reproché, on a souvent soupçonné Bataille, Caillois, un certain nombre de personnes qui gravitaient autour du Collège de sociologie, d'avoir des intérêts qui, politiquement, étaient en harmonique, plutôt avec des rêves, disons, totalitaires, un peu même fascisants quelquefois, plutôt qu'avec le Front populaire. Et à ce moment-là, il est très probable que certaines des réticences de Léris étaient d'ordre politique. Non pas du tout qu'il ait soupçonné Bataille d'avoir des penchants fascistes, mais il y avait malgré tout dans les harmoniques de certaines conférences, certains des intérêts, il y avait quelque chose par rapport à quoi lui, une espèce de vieux républicain, malgré tout, dans le fond, laïque, se sentait distant et même peut-être méfiant.
La conférence Le Sacré dans la vie quotidienne, elle réalise d'une façon très, très claire l'ambition du Collège de sociologie qui est de finalement faire une espèce de sociologie du sacré ou encore d'avoir vis-à-vis de notre société contemporaine, industrielle, civilisée, entre guillemets, l'attitude de l'ethnologue.
Oui, enfin, ce qui est important dans cette conférence, c'est surtout le fait qu'elle se déroule à la première personne. Le fait que Et c'est pour ça qu'elle sera en fait le point de départ de la règle du jeu. Elle sera le point de départ de cette conférence, qui est une des premières conférences prononcées au Collège de sociologie, en début 38, en janvier 38. C'est en fait à partir de cette conférence que Liris va petit à petit concevoir la règle du jeu. Donc ce qui est essentiel ici, c'est la première personne, c'est le discours autobiographique, c'est-à-dire, c'est là que ça se rattache au projet du collège, la recherche d'expériences qu'il classe sous la rubrique du sacré dans des souvenirs enfantins. C'est l'époque où Sartre vient de publier La Nausée. Et ceux qui participent au collège, aussi bien Kaiwa, Bataille que Monroe, ont tous été extrêmement impressionnés par La Nausée, et en particulier par ce qu'un des personnages de La Nausée, vous vous rappelez sans doute, Annie, appelle les moments parfaits. La recherche donc d'une esthétique vécue du moment parfait. Et dans le fond, ce que Liris commence à isoler comme des moments sacrés, dans le sacré dans la vie quotidienne, c'est l'équivalent de ce que Annie, dans La Nausée, appelle les moments parfaits. La lecture de La Nausée en 37 aura une valeur décisive dans l'avenir de l'œuvre de Liris. C'est en fait La Nausée, à mon avis, qui permettra à Liris de sortir du blocage de l'âge d'homme dont j'ai parlé précédemment.
Justement, dans ce texte, vous dites que c'est le jeu, le fait que l'auteur parle à la première personne qui est important. En effet, on voit déjà dans ce texte comment l'homme Liris, et devient la mesure et la référence, disons, du chercheur Liris.
Dans le profil de Liris intellectuel, de Liris ethnologue, je crois qu'il y a deux éléments qui sont extrêmement importants et qui vont l'un avec l'autre. C'est d'une part le fait qu'il ait eu une psychanalyse, qu'il soit passé par le divan, enfin plutôt.
C'était le même psychanalyste que Bataille ?
Oui, Borel, oui, Adrien Borel. Le même que Queneau également, d'ailleurs. Donc, le fait qu'il ait, disons, payé de sa personne, hein, vis-à-vis de la psychanalyse, mais également le fait qu'en tant qu'ethnographe, il ait aussi payé de sa personne, c'est-à-dire que l'ethnographie n'est pas un savoir de cabinet. Hein. Cela implique que l'on parte, hein, que l'on s'éloigne de chez soi pendant une durée précise. Bon, Liris a été assez long, cette traversée de l'Afrique dont il parle dans l'Afrique fantôme. Et dans les deux cas, le cas de la psychanalyse et le cas de l'ethnographie, dans le fond, le sujet, la première personne, acquiert un savoir précisément par le fait qu'il entre dans un processus qui met en jeu sa vie privée, sa vie personnelle, qui en quelque sorte le déstabilise. Et l'importance de l'autobiographie chez Liris est liée à cette espèce de matrice fournie par la psychanalyse et l'ethnographie, c'est-à-dire la matrice dans laquelle le sujet apprend quelque chose en s'engageant, en entrant dans une aventure dont il ne sait pas comment elle se terminera. C'est-à-dire le savoir chez Liris, on voit toujours un peu ce côté, je dirais, faustien. Ce n'est pas un savoir de cabinet. Hein. Liris a toujours essayé, il a toujours eu une horreur. À chaque fois qu'il s'est senti comme un bureaucrate du savoir, il était dans la dépression et souvent au bord du suicide. Il a toujours eu besoin de ce mythe, n'est-ce pas, un peu prométhéen, du savant qui va arracher le savoir, hein, qui risque quelque chose en découvrant, en apprenant quelque chose.
Les idées mères du Collège de sociologie avait été puisé dans l'école sociologique française, Marcel Mauss, Robert Hertz, etc. Les trois fondateurs étaient Bataille, Caillois et moi-même. Et puis il y avait des gens comme Jules Monod, et puis pas mal de gens qui ont pris la parole, puisqu'il s'agissait de conférences suivies de discussions. Alors ça, ça je ne vais pas en parler. Il y a le livre de Diolieu qui est tout à fait bien fait et qui rend compte de tout ça admirablement.
Alors cette entreprise du Collège de sociologie, même s'il a manifesté une certaine réserve à l'égard de certains aspects de cette aventure, malgré tout, c'est quand même une entreprise assez originale à l'époque. La sociologie est quand même une science relativement jeune. Et là, il s'agit de faire de la sociologie un véritable outil d'intervention sociale.
Bon, je vais donner un peu, si vous voulez, à ce qui, à mon avis, est l'arrière-plan du collège, et essayer de décrire ce qui, à mon avis, est également la raison principale de la distance de l'IRIS. Bon. Un des projets essentiels du collège, c'est de montrer que ce que les sociologues spécialistes de sociétés primitives africaines, océaniennes, présentées comme étant la mentalité primitive, s'applique aux phénomènes les plus récents de la vie politique occidentale. Et que, par conséquent, les mouvements totalitaires en particulier sont essentiellement un retour dans l'espace rationaliste européen de schémas et d'expériences psychiques qu'on avait toujours distanciés dans les régions reculées qui sont celles des peuples primitifs. Donc, au point de départ, il y a cette idée d'une espèce de retour du primitif dans le politique contemporain, en particulier à la faveur de la sécularisation de la société, c'est-à-dire, disons, la séparation de l'Église et de l'État, ou ce qu'on veut. Voilà. Le moderne séculier, précisément à cause de l'élimination du religieux traditionnel, devient l'espace d'une espèce comme ça de primitivisme. Alors, je crois que l'IRIS n'a eu beaucoup de sympathie pour ce projet. Lui, au contraire, l'IRIS, c'est pour ça qu'il est ethnologue, il veut que le primitif soit primitif, malgré tout. Il a toujours, ce qu'il aime dans le primitif, c'est qu'il ne ressemble pas à un Européen. Et quand on lui raconte qu'en fait les Européens se ressemblent au primitif, c'est quelque chose qui ne l'amuse pas. Il perd en fait son mythe du primitif. Et alors, à mon avis, la première distance qu'il y a entre l'IRIS et les autres participants du collège sont liées à cela, sont liées au fait qu'il y a un rousseauisme de l'IRIS qui lui fait aimer dans les primitifs des gens qui ont tous les secrets dont il est se sent privé, lui, en tant qu'occidental. Il n'est absolument pas prêt à identifier les militants nazis, par exemple, avec les danseurs de je ne sais quelle société secrète d'initiés en Afrique ou en Océanie.
Qu'il les refusait, c'est tout à son honneur, je pense, mais malgré tout, dans cette démarche à la fois scientifique et esthétique du Collège de sociologie, vous dites retrouver le primitif dans la vie moderne. Mm-hmm. Est-ce que ça n'était pas dans l'air du temps? Parce que toutes les manifestations de masse de cette époque, le fascisme, le nazisme, il y a quand même aussi un espèce de retour d'un certain refoulé primitif à la surface des représentations politiques.
Non, je pense que c'est une analyse qui est tout à fait possible. Une analyse que...
Je parle du décor, disons, oui. Un peu à la fois intellectuel, philosophique, historial, comme dirait Heidegger, oui. De cette entreprise du Collège de sociologie.
Oui, mais c'est précisément là que l'IRIS débranche. Il y a en fait, curieusement, chez l'IRIS, un rationalisme Troisième République. Et il reste très attaché à cette idéologie républicaine, à cette idéologie séculière qui implique que, justement, il y ait une différence, n'est-ce pas, entre, je dirais, le primitif et l'occidental. Plus tard, hein, enfin, déjà à cette époque-là d'ailleurs, mais beaucoup plus clairement ensuite, après la guerre, quand il aura une stature d'ethnographe mieux reconnue, bon, ce qu'il envisagera, c'est l'inverse, c'est évidemment, c'est-à-dire que le primitif, entre guillemets, hein, maintenant devenu colonisé, hein, entre du côté de la science, c'est-à-dire devienne lui-même ethnographe. Mais ça ne sera jamais que l'ethnographe devienne primitif. Hein, l'osmose, hein, chez l'Iris, se passera en sens inverse. C'est-à-dire l'accès des anciens colonisés à la rationalité scientifique ou philosophique ou idéologique, hein, de l'ethnographe occidental.
Et vous ne pensez pas, vous qui avez connu personnellement Michel Léris, vous ne pensez pas que cette façon de mettre en avant, d'une façon très, très claire, très affirmée, ces distinctions entre son œuvre d'ethnographe et son œuvre d'écrivain, entre ce que vous appelez le domaine du primitif et puis la société moderne, etc., n'est pas fait presque davantage pour masquer justement le trouble et la confusion où cela se tient au fond de lui-même?
Cette opposition elle-même est trop simple, vous avez raison. Il faudrait la compliquer en introduisant une troisième dimension. Léris, qu'est-ce qu'il raconte dans son œuvre d'autobiographe, dans son œuvre littéraire, dans l'œuvre qui compose à peu près 90% de ses écrits littéraires? Essentiellement, ce qu'il dit, c'est qu'il voudrait être un poète, et qu'il n'arrive pas à l'être. Donc, l'œuvre littéraire elle-même est une œuvre qui, en quelque sorte, est divisée en deux parties. L'une qui a été écrite, l'autobiographie, et l'autre qui n'a pas été écrite. Et évidemment, tout ce que Léris appelle la poésie, et encore une fois, la formule de Léris, ce n'est pas qu'il veut écrire des poèmes, c'est qu'il veut être un poète. C'est une formule que très souvent il a. D'ailleurs, un des volumes qui s'appelle Fibri est entièrement consacré à ça. Qu'est-ce que ça veut dire être poète? Et être poète, ça veut dire beaucoup d'autres choses pour Léris que simplement écrire des poèmes. Alors, dans cet idéal d'être poète, il y a évidemment beaucoup de choses, hein, qui recouvrent le mythe du primitif, hein, l'irrationalité, l'archaïsme, de rupture, hein, hors des cadres académiques, des règles linguistiques. Hein. C'est-à-dire, c'est en fait quelque chose qui, dans l'imaginaire de Léris, se rattache d'assez près, dans le fond, au surréalisme. Hein. Le surréalisme est le mode poétique du XXe siècle qui est le plus proche, où il s'agissait d'être poète beaucoup plus que d'écrire des poèmes. La poésie était un mode d'existence. Ce n'est pas le Heidegger. Vous citiez Heidegger, ce n'est pas un l'homme habite en poète, mais il s'agit de faire que la poésie soit autre chose que simplement la production de textes, hein, où l'écrivain va au bout de la ligne avant que la page soit finie. Hein, il s'agit
être voyant.
Oui, bon, évidemment, le mythe de Rimbaud ici est essentiel. Oui. Vous voyez, des gens comme Bataille, des gens comme les sociologues du Collège de sociologie, projetteront le primitif dans le politique, hein, verront dans les foules de Nuremberg, hein, l'équivalent d'extase comme celles qui sont produites au cours des rituels d'initiation dans les sociétés secrètes primitives. Bon, pour Léris, s'il y a quelque chose comme une réinscription du primitif dans le moderne, cette réinscription n'est pas politique. Cette réinscription, elle se passe du côté de la poésie. Je reviens à ma première rencontre avec Léris. Je crois que Léris a eu toujours le sentiment d'être engagé dans cette histoire du Collège de sociologie, un petit peu malgré lui. C'est un certain temps. Il y a chez Léris un certain suivisme. Il s'est laissé entraîner par Bataille, sans doute là-dedans, parce que c'était une période où il n'avait pas l'initiative, il ne savait pas très bien où il allait, il avait une disponibilité et une inquiétude liée à ça. Et dans le fond, il s'est retrouvé dans cette entreprise un petit peu malgré lui. et il avait du mal à s'y reconnaître. Alors il s'y insérait, il a contribué avec ce texte, qui est en fait un texte très important, à la fois dans l'agenda du collège et dans l'œuvre de Léris, qui est le sacré dans la vie quotidienne. Mais encore, ce texte, bon, est prononcé, c'est une des premières conférences prononcées là-bas, et puis après, Léris ne fait plus rien pendant 2 ans. Ce qui est vraiment le signe qu'il ne se sent pas chez lui. Pour des raisons de mentalité, pour des raisons de formation professionnelle en tant qu'ethnologue, il n'aime pas interpréter la politique contemporaine à la lumière des catégories de la sociologie du monde des sociétés primitives.